Voilà donc, bonjour chères auditrices, chers auditeurs. Nous y sommes avec notre émission du mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Et au départ de cette émission, nous sommes obligés tout d'abord de saluer cette majestueuse manifestation d'étudiants contre la hausse des frais de scolarité, une manifestation qui a regroupé environ 200 000 étudiantes et étudiants qui se sont déplacés partout pour se retrouver ici à Montréal, au lieu et à la date précise. Un signe considérable d'union, de solidarité et surtout de détermination. Maintenant, ces étudiants, ils sont en grève depuis plus qu'un mois. Combien de temps ils vont maintenir le cap et résister à cette réclamation hautement défendable? C'est la question que plusieurs posent sans obtenir malheureusement de réponse présentement. Alors, ce qu'il faut retenir de cette manifestation, c'est que les étudiants ont réussi un tour de bras remarquable, pour le moins une force qui a très bien illustré la forme du non à la hausse réclamée par tous les coins de la province. Un non légitime qui, d'ailleurs, tout le mérite d'être invité autour d'une table de négociation. 200 000 personnes sont sans exagération, bien sûr, puisqu'au fond, le nombre de personnes qui appuient cette cause, le gel des frais de scolarité, est beaucoup plus élevé qu'on imagine. Vous le savez très bien qu'au Québec, la classe moyenne est très forte et le nombre de familles pauvres se multiplie de plus belle, ce qui fait justement que la menace de la hausse des frais de scolarité risque fortement de pénaliser injustement, directement ou indirectement, cette grande partie de la population. Donc il faut retenir aussi que cette manifestation s'est déroulée dans le calme, exemplaire même au point d'être félicité de part et d'autre. Maintenant, le rôle du gouvernement devant un tel appel, une telle contestation, une telle marche populaire, devant un nombre de manifestants aussi élevé que celui-ci, au moins d'ouvrir une voie de dialogue, il sera de l'irresponsabilité de la part du gouvernement d'ignorer un tel appel à la négociation. Mais malheureusement, avec le gouvernement libéral, et toujours plus précisément leur chef Jean Charest, parce que je suis certain que ce n'est pas tous les libéraux qui souhaitent de ne pas reculer devant cette contestation, qui ne souhaitent pas rencontrer les étudiants et discuter avec eux pour trouver une sortie à l'impasse. Mais le problème, c'est que vous avez devant vous un Jean Charest, un homme qui pense que la politique, c'est de s'accrocher au non, dire non à la demande et tourner le dos à la volonté majoritaire du peuple. Un jour, vous avez choisi cet homme-là pour gouverner, alors il faut assumer la défaite. Les années de son gouvernement nous ont clairement montré le caractère de cet homme, un homme qui maintient des décisions qui ne sont pas partagées par la majorité, un homme qui ignore la voix de la foule, un homme qui porte le plus grand défaut de l'humanité, croire qu'il a toujours raison et les autres, ils ont tort. Un homme qui attend d'être isolé, dans le dernier tranché possible pour dire oui, je me livre. J'ai beaucoup aimé ce matin cette phrase de comparaison qui fait d'ailleurs la une du Journal de Montréal, la phrase de Gérard Cyr, dirigeant de l'International, à l'endroit de la ministre du Travail, Madame Lise Thériault. Et je cite, donc il disait qu'elle est bouchée comme une toilette. Dans le cas de Jean Charest, c'est une toilette bouchée en permanence. Et le seul remède, il faut la remplacer. Donc la règle démontre en plus que le politicien qui refuse de dialoguer avec le public, qui refuse la négociation, et qui ignore une foule record et qui demeure inflexible malgré cette voix assourdissante, d'abord, d'une part, c'est une forme de non-respect envers le citoyen, et d'autre part, le message politique devient nuisible au bon déroulement de la société. Et je me rappelle d'un proverbe chinois qui disait quelque chose dans ce sens, « Lorsque les mots perdent leur sens, les gens perdent leur liberté. » Et j'ajoute, si on vous ignore, chères auditrices, chers auditeurs, c'est simplement parce que vous n'existez pas. Au micro avec vous ce matin, Adja Zitouni, président du mouvement Action Justice, un organisme, soi-disant, qui assure la surveillance civile des institutions judiciaires pour prévenir et dénoncer leur abus de pouvoir. Donc, il accompagne également les victimes de l'abus de pouvoir dans leur démarche visant le rétablissement de leurs droits ou la réparation des torts subis. Mon collègue Roland Cazès m'accompagnera, comme d'habitude, le long de cette émission dans laquelle on va vous présenter une nouvelle escalade de la violence policière. Toujours ici à Montréal, vous allez voir la gratuité de la brutalité policière et les conséquences sur le citoyen victime. Si vous êtes victime, chère auditrice, chers auditeurs, ou témoin d'abus de pouvoir ou d'injustice, appelez-nous au 514-273-4302. Donc je rappelle 514-273-4302, comme vous pouvez aussi nous écrire à info@commercialmage-québec.com. Je répète, info@commercialmage-québec.com. Dénoncer ensemble, c'est prévenir et décourager la violation ou la violence de l'autorité. Restez à l'écoute, vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM. Après notre thème musical, nous revenons à ce feuilleton interminable de l'injustice de l'abus du pouvoir au Québec.
Formidable sur les problèmes de société. Coup des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table, à condition d'être masqué, un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique. Vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique pour nous aider à retrouver tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel, vous seul pouvez nous renseigner. Dans quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société. Une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Entre qui saigne et qui charcute, entre bourreau et torturé, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé. Entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis, comme une apothéose, entre SS et déportés. Ce soir, après la roue de la fortune, un baffe obscène est à la lune.
Voilà donc, rebonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Vous êtes en direct avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Si les grands médias nous s'intéressent pas aux cris d'alarme et à la souffrance des citoyens, surtout des citoyens ordinaires et monsieur tout le monde, alors nous, c'est notre cause première. On considère que le respect et la considération dans le rapport des individus est le centre de l'existence même. Voilà pourquoi tout rapport de force perd sa légitimité devant cette frontière. La victime que vous allez écouter ce matin et aussi ne souhaite rien d'autre que d'établir ce droit de respect et de considération. Elle souhaite, comme les centaines de victimes que nous avons rencontrées déjà, l'arrêt définitif de la brutalité et de l'injustice de l'autorité. Avant de vous passer le témoignage de cette dame, de cette victime, j'aimerais bien peut-être poser la question à Roland, mon collègue Cazès, à propos, avez-vous quelque chose à nous dire aujourd'hui, ce matin, à propos de la manifestation d'hier ?
Oui, moi je tiens à féliciter tous ces jeunes qui n'ont pas eu d'encadrement policier, qui se sont comportés comme du monde, il n'y a pas eu de casseurs, il n'y a pas eu de provocation. Oui. Et ça, il faut appuyer le cas et montrer que des gens peuvent se comporter en adulte quand on n'a pas des policiers qui sont complètement bernés, qui sont arriérés, qui pensent qu'il faut cogner sur le monde pour pouvoir avoir gain de cause. Moi,
mais
je Roland, tiens à les féliciter.
Mais Roland, respecter, hein, nous sommes d'accord, je suis d'accord
c'est
avec vous, comme
respect.
Quoi ils ont respecté toutes les règles de la manifestation à la rigueur, si vous voulez. Mais la seule chose, est-ce que pensez-vous que il y aura un effet, un écho pour Jean Charest répondre à cette... Justement.
Moi, je trouve qu'ils ont organisé leur service d'ordre.
Oui.
Et tout manifestant devrait s'organiser à avoir un service d'ordre. Parce qu'il y a des casseurs, il y a des bandits, il y a des voleurs, il y a des drogués, il y a des...
Mais c'était pas le cas cette
et
fois-là.
Et ces gens-là s'introduisent pour faire du trouble,
oui,
et faire passer ça sur le dos des étudiants.
Non, mais c'était pas le cas.
Parce qu'ils se vengent
vous
de
m'avez...
la police, ces gens-là.
Roland, vous m'avez pas répondu à ma question.
Je m'excuse.
Vous avez pas répondu à question, à cette forme-là. Tu sais, le journal de Montréal, il parle de 200 000 manifestants, le journal d'après 100 000 manifestants. Imaginez-vous... Non, je parle des manifestants, là.
Ouais.
On parle d'un manifestant, le nombre de manifestants. Le journal de Montréal, ce matin, il parle de 200 000 participants. Le journal de la presse, il parle de 100 000 manifestants. Imaginez-vous, là, l'écart entre 100 000 et 200 000, entre deux médias. Il y a un problème, hein, on a un problème sérieux.
Il y en a qui ne savent pas compter, puis il y en a qui ne savent pas faire des félicitations non plus.
Oui, mais c'est grave, hein, on ne parle pas de 10 000, on parle de 100 000.
Radio Centre se permet de féliciter tous ces jeunes,
oui,
mais de leur comportement.
Vous m'avez non plus pas répondu aussi à la question.
Il faut le faire, le répéter.
Oui,
c'est
parfait.
C'est très bien.
Quel est l'écho pour Jean Charest? Pensez-vous que Jean Charest va
Jean
reculer?
Jean Charest, voilà, tout le monde est
moi, je
ne
le pense
lui.
Pas.
Hein, tout le monde est contre lui parce qu'il n'agit pas correctement. Il attend que tout se détériore, prétend que c'est... Vous savez, on a prétendu que la FTQ avait frappé des femmes, on a prétendu... Ça, c'est toujours les ministres qui se chargent des excuses pour détruire un mouvement, pour détruire quelque chose qui est trop fort contre eux. Voilà. Et les étudiants, ça a été pareil.
Non, mais Roland, quel est le message que Jean Charest lance quand il dit qu'on ignore les étudiants? Quand il s'en fiche carrément de leur appel, hein,
qu'ils mettent 50% des policiers dehors, puis il va avoir assez de financement pour les études de ces étudiants. 50% des policiers ne foutent rien. Ils ont les fesses larges comme un 4x4, là, puis ils sont dans leur voiture à longueur de journée à brûler de l'essence devant une station de métro, là. Moi, je trouve que c'est l'argent gaspillé par ces gens-là.
Mais Roland, dis-moi maintenant, la détermination des étudiants, vous avez déjà parlé avec des étudiants, quelle est la détermination rapidement en deux mots, Roland?
Moi je trouve que ces étudiants ont raison. Les études devraient être gratuites.
Oui.
On devrait évoluer avec des études gratuites.
Donc vous pensez que les étudiants devront...
augmenter le PIB du pays.
Mais vous pensez quand même que les étudiants devront garder le cap et ils devront vraiment continuer le débat.
Il faut qu'ils continuent à tenir.
À tenir. Donc voilà, chers auditrices, chers auditeurs, maintenant je reviens en faire cette parenthèse-là et on revient avec notre sujet d'aujourd'hui. Donc je vous laisse écouter le témoignage de Mme Diane Guérard. Hein. C'est une résidente de La Salle. Nous l'avons rencontrée cette semaine chez elle. Écoutez cette première partie de notre entrevue réalisée cette semaine. Voilà, donc bonjour Madame Guérard, Diane, c'est ça ?
Diane Guérard, oui.
Diane Guérard. Nous sommes aujourd'hui chez vous, à La Salle. Et pouvez-vous me dire, Madame, vous habitez ici à La Salle depuis combien d'années ?
Ça fait 6 ans que je demeure au 94-31 boulevard La Salle.
Vous habitez ici à La Salle depuis 6 ans.
Exact.
Avez-vous eu des problèmes avec les policiers?
Jamais.
Vous n'avez jamais eu de problème avec les policiers?
Aucun problème.
Et si je retourne un petit peu à la date de l'événement, qui était le 6 février 2012, qu'est-ce qui a fait que vous avez eu un problème avec les policiers? Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui est arrivé là?
Ben, c'est que mon frère, cette journée-là, il s'était séparé d'avec sa blonde.
Votre frère, il habite à La Salle?
Non, il habite à La Chine.
Il s'était
séparé d'avec sa blonde, puis il me donnait un coup de fil pour que j'y aille lui remonter le moral, parce qu'il pleurait. Fait que j'ai été chez lui.
Si j'ai bien compris, votre frère, il vient de sa blonde, il vient de le laisser, donc c'est tout à fait normal. Il pleurait, il était en crise, si j'ai bien compris.
Exact, oui.
Et il cherchait de l'appui, de l'aide, quelqu'un qui le conforte, et c'était vraiment sa sœur, il ne trouvait pas mieux que ça.
Exact.
OK. Alors, il vous appelle et vous, vous rendez chez lui.
Exact. Là, je me suis rendue chez lui à la Chine, sur la rue... mon Dieu... Parce que j'ai plein de
mémoire. C'est pas grave.
Anyway, je me suis rendue chez lui. Ouais. Puis là, arrivé chez lui, il était dans son camion parce qu'il était sur l'heure de partir pour aller travailler.
Oui. C'était à quelle heure, madame?
Il était à des alentours entre 1h moins quart, puis 1h moins quart, puis 1h30, en tout cas.
Donc, si j'ai bien compris, il vous attendait, quoi. Il savait que vous alliez venir.
Non, il ne savait pas parce qu'il s'en allait travailler.
OK. Mais
il était dans son camion.
Mais quand il vous a appelé, vous disiez qu'il m'a appelé. Il vous a appelé pour vous dire de venir le voir, j'imagine.
Exact, oui.
Donc, il savait que vous alliez venir le voir, oui, ou non?
Non, il ne savait pas parce qu'il a tombé sur mon répondeur.
Ah, OK. Vous avez, de toute façon, vous n'avez pas eu au téléphone directement.
Non, exactement.
Vous avez simplement entendu le message.
Exactement.
Et là, vous sentez le besoin d'aller voir votre frère.
Exactement. Fait que là, je me suis rendue chez lui, puis là, quand il était dans son camion, j'ai stationné mon véhicule, puis j'ai embarqué dans son camion, puis là, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe, puis là, il pleurait, il disait, me laisser, puis j'ai dit, Daniel, je dis, garde, j'ai dit, tu peux pas aller travailler comme ça, j'ai dit, viens, j'ai dit, on va rentrer dans la maison, on va discuter dans la maison. J'ai dit, m'appeler à ton travail pour lui dire que tu peux pas rentrer, que tu es malade.
Est-ce qu'à un moment donné, il vous a dit qu'il a eu des problèmes avant dans cette séparation-là, ou il n'y a rien? Elle
pas
est partie,
tout,
point final. Il n'y a rien
exactement.
De problème.
Exactement. J'ai dit, t'as pas rien été violent. Il me dit, non, Diane. Il dit, elle est partie.
Comme ça.
Exactement.
Elle a déclaré qu'elle s'en va, point final.
Exactement. Mais ça faisait comme beaucoup d'argent qu'il lui donnait.
Oui.
Puis il était comme découragé de voir qu'elle partait, puis qu'il perdait tout cet argent-là qu'il lui avait donné.
Oui, c'est affectif aussi, hein. Donc,
exactement. Ouais. Fait que là, on est rentré dans la maison.
Rentré chez lui.
Chez lui.
Ouais.
Là, j'ai appelé à son travail pour dire que
il
pouvait pas rentrer, mais j'ai tombé avec le répondeur de son travail.
Ouais.
Puis là, j'ai laissé entendre
le message
ou à son patron. Puis j'ai raccroché. Même pas 5 minutes après. Là, il y a eu sur son téléphone cellulaire à lui un appel. Là, je croyais que c'était son patron qui appelait.
Oui, vous
répondez? J'ai pris l'appareil, puis j'ai répondu au téléphone. Puis là, il m'a demandé pour parler à Daniel Guérange. J'ai dit, c'est de la part de qui? Là, il me dit, c'est le sergent détective. Là,
XY.
J'ai oublié son nom.
C'est pas grave.
J'ai dit, juste un moment, s'il vous plaît. Fait que là, j'ai dit à mon frère, j'ai dit, Daniel, j'ai dit, c'est pour toi le téléphone, c'est un policier. Fait que je lui ai remis le téléphone. Puis là, à ce moment-là, j'entendais la conversation quand même qui se faisait, mais j'entendais pas le policier, qu'est-ce qu'il disait.
Oui.
Mais là, mon frère, il me regarde, il dit, Diane, il veut que j'aille dans le hall d'entrée. Ben, j'ai dit, on va y aller. Il dit que...
Ah, il a demandé de sortir chez lui.
Oui.
OK, mais pourquoi il l'a pas connu chez lui, simplement?
Parce que là, il était au téléphone. Mais là, c'est ça, on ne sait pas rien, là.
Ouais, vous ne comprenez pas du tout ce qui se passe.
Du tout. On ne sait pas ce
Donc, le sergent en question qui l'appelle, il lui demande de sortir, de se rendre dans le corridor.
Fait que là, il demande à mon frère de s'en aller dans le corridor. Fait que je dis, regarde, Daniel, je dis, on va y aller.
Oui.
Et là, il me dit, mon frère, il dit qu'un char de police cherche l'adresse où je demeure.
Pour se rendre lui.
J'ai dit, on va y aller.
On va sortir.
Fait que là, on s'en va dans le corridor, on est dans le hall d'entrée, puis là, on attend de voir un autopatrouille.
Oui.
On n'en voit pas d'autopatrouille. Puis là, il dit, je vois pas de char de police. Il dit, regarde, il dit, mais là, ça fait peut-être 5-10 minutes qu'on est dans le hall d'entrée.
Mais il est toujours au téléphone avec le sergent?
Oui, il est toujours au téléphone.
Donc, votre frère, il mentionne qu'on croit, nous sommes à l'extérieur, on cherche, mais on voit rien.
Exact. Puis là, il dit, je vois pas rien. Mais tout le temps, il pose des questions, comment il est habillé, puis tout ça.
Ouais, okay.
Puis mon frère, il avait seulement ses jeans, il avait enlevé son chandail, il était torse nu, il était nu-pied, puis il a tout expliqué ça au sergent, au téléphone. Puis il a dit, parce qu'à un moment donné, il a demandé qui j'étais, moi. Puis il a dit, c'est pas ma mère, il dit, c'est ma soeur.
C'est ma soeur.
J'en ai déduit que le policier avait demandé si j'étais sa mère.
Oui.
Mais en tout cas, on est là dans le hall d'entrée, on attend de voir un char de police qui arrive dans le stationnement, parce que le stationnement il est en face du hall d'entrée. Oui, oui. Mais là, tout d'un coup, moi, je suis comme contre le mur. Là, mon frère, il dit, j'ai vu les policiers, mais ils sont armés, puis il dit, ils me pointent.
Avec l'arme?
Oui, avec les armes.
Et ça, il dit ça au sergent?
Oui, il dit au téléphone, puis là, moi, je suis là, puis je l'entends. Puis là, à ce moment-là, je me suis mis devant lui. Je sais pas, ma réaction était...
Il dit que c'est clairement comme quoi les policiers
me
pointent.
Oui, parce que là, quand il a dit ça, je me suis avancée pour voir. Puis oui, c'est vrai, il y avait deux policiers.
Avec l'arme.
Un homme et une femme, policiers, qui s'en venaient avec leurs armes dans la main. Puis c'était une carabine que l'homme avait. Puis la dame, elle avait un revolver. Puis là, j'ai pointé sur nous.
Oui, sur votre frère, plutôt.
Oui, sur mon frère, parce que là, il était sur moi, parce que je me suis mis devant lui et pour me protéger. Parce que là, moi, dans ma tête, je me disais, si je me mets là, ils tireront pas sur moi.
Parce que y avait...
Ils vont tirer sur lui, mais pas sur moi.
Mais parce qu'il y a une probabilité qu'eux, ils vont tirer
n'importe quoi, ils vont tirer. Exact. Ouais. Je ne sais pas pourquoi ils veulent tirer.
Vous avez cette peur-là.
Oui,
ils vont
j'ai
tirer.
Cette peur-là, puis l'instinct que
pourquoi
j'ai...
vous avez cette peur-là, madame? Parce que vous avez entendu que chaque fois qu'il y a une intervention, ils vont tirer sur les gens?
Non, c'est que je me dis, s'ils sont armés, puis qu'ils nous pointent,
ils risquent de
tirer. Effectivement, là, tu sais... Il n'y a personne qui a une arme et qui pointe une arme sans vouloir tirer.
Et vous ne comprenez pas pourquoi?
Non, je ne comprends pas. Oui. Puis là, je lève mes mains dans les airs puis je lui dis...
Arrêtez.
Oui. Puis lui aussi, il est au téléphone avec le sergent. Il dit, qu'est-ce que je fais? Il dit, il me pointe. Mais là, il n'entend pas, là, parce qu'il est là avec son cellulaire de l'oreille à les mains dans les airs. Là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, non, il faut que ça arrête. J'ai ouvert la porte.
Oui.
Puis là, je lui ai crié... Baissez vos armes, on n'est pas armés. Mais là.
Vous avez demandé de baisser les armes.
Oui. Là, j'ai ouvert la porte. En ouvrant la porte, j'ai vu que sur le long du mur, à ma gauche, il y avait d'autres policiers qui s'en venaient en petit bonhomme, mais armés aussi. Puis là,
et qui vous pointent aussi.
Oui.
My God.
Puis là, j'ai crié, hey, arrête.
Réveillez-vous, là.
Arrête. Oui. J'ai dit, on n'est pas armés, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème?
Oui.
Mais là, le policier à ma gauche, il m'a poussé dans le contrage de la porte.
Oui.
Puis là, il est rentré, il a sauté sur mon frère.
Oui.
Mais là, on parle d'une entrée, là, d'un portique, si vous voulez.
Oui.
Mais c'est tout vitré, là.
Oui.
Il a sauté dessus, il a embarqué à cheval dessus lui, puis là, il essayait d'y mettre les manottes dans le dos. Mais là, moi, je comprenais pas plus. Là, il y a une policière là, puis il y a les deux policiers qui sont à côté de moi. Puis là, je me penche contre lui, puis je dis, pourquoi vous l'arrêtez? Qu'est-ce qu'il a fait?
Je comprenais pas qu'est-ce
qu'il a fait. Je comprends pas. Puis là, je dis, pourquoi? J'ai dit, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi vous l'arrêtez?
Ouais.
Puis là, il m'a regardé, là, ses yeux. Il était tellement méchant.
Vous n'arrivez pas à l'oublier,
reste,
j'imagine?
Non, j'en rêve. Excusez.
Ouais.
Il m'a donné une poussée. Puis là, sur mon sein, j'ai été revolée dans la vitre. Puis j'ai mis mes mains de même pour arrêter mon cou.
Il vous a foncé dans la vitre, là?
Il m'a donné une poussée. Ouais. Il était à cheval sur mon frère.
Ouais. Il s'est levé ou...
Non, il est resté là.
Il tournait?
Il m'a donné une poussée, mais les autres policiers sont là.
Ils étaient à côté de lui, les policiers?
Exact.
Mais ils ont pu intervenir?
Oui.
Ils l'ont pas fait.
Ils sont dans la porte d'entrée, puis ils font rien. Je suis pas agressive, rien. Je lui demande pourquoi qu'il arrête mon frère.
Alors, quand vous l'avez posé la question, madame, si j'ai bien compris, il est toujours sur votre frère.
Oui.
Il tourne et il vous pousse tellement fort.
De sa main droite, il m'a donné un coup
sur le
sein.
Oui.
J'ai été revolée dans la vitre. La vitre a pété. Je regardais en l'air. Puis j'ai vu le gros morceau de vitre qui s'en venait. Puis j'ai voulu avancer pour pas l'avoir à sa
tête.
Puis je l'ai eu dans le dos. Puis là, quand j'ai eu le morceau de vitre...
Dans le dos?
Là, il a cassé sur ma tête.
Oui.
Il a tombé, puis il a cassé sur ma tête après. Là, je voyais le sang qui jaillissait de mon dos.
Ouais.
Puis là, j'ai reculé vers le mur où ce qui est les boîtes à mal, puis les deux genoux m'ont flanché. Puis là, je criais aux policiers qui étaient là, aidez-moi, faites quelque chose. Puis là, ils sont venus, puis La police a mis la main sur mon épaule pour empêcher le sang de jaillir.
On part d'une ouverture de combien, madame?
De 22 cm.
22 cm. Vous avez fait une pointe de suture de 22 cm.
Non, les pointes de suture, c'est 25 points de suture, puis l'ouverture est de 22 cm. Oui.
Mais là, les policiers, les autres policiers, ils ont intervenu pour essayer d'arrêter le sang, c'est ça?
Oui. Puis là, c'est ça. Puis là, je continue à dire, pourquoi ils l'arrêtent?
Et vous ne comprenez pas non plus.
Je ne comprends pas plus. Oui. Puis là, elle me dit, elle dit, restez calme, madame, restez calme, l'ambulance s'en vient. J'ai dit, oui, mais gars, je veux pas m'en aller, je veux savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec mon frère.
Ouais.
Puis là, en tout cas, là, ils m'ont emmené dans l'ambulance, puis j'ai jamais voulu que l'ambulance parte avant que je sache où ce qui emmenait mon frère.
Qu'est-ce qui se passe avec ton frère, oui.
Puis là, ce que j'ai su par la suite, c'est que... Après, mon frère, il m'a expliqué que même pas cinq minutes après, ils l'ont assis dans les escaliers. Ils ont enlevé les menottes.
Ils n'ont pas posé deux questions, trois questions, puis ils l'ont relâché, c'est ça?
Non, non, ils l'ont pas relâché. Ils ont enlevé les menottes.
Oui.
Puis là, ils ont dit, il y a un problème. On comprend pas.
Parce qu'ils ont enlevé les menottes, ils l'ont quasiment lâché parce qu'ils savaient qu'il a...
Il
se rend compte qu'il n'est ni agressif.
Ni envers moi, ni envers mon frère. Mon frère n'était pas agressif du tout, du tout.
Ça veut dire que tous leurs gestes étaient gratuits, quoi.
Exactement, exactement. On ne sait pas.
Oui.
Oui, rebonjour, chère auditrice, chère auditeur. Donc voilà, vous avez écouté la première partie du témoignage de Madame Guérard, Diane Guérard, victime des agents de la SPVM. Nous allons, juste, si vous me permettez, nous allons faire une pause musicale et on va revenir dans la deuxième partie avec son second témoignage. Restez à l'écoute, vous êtes sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM. Voilà, on va être au retour dans quelques minutes.
Le soleil tarde à s'ouvrir. I'm closed for le temps de le dire. Le temps se faufile et s'endort. Trop occupé à jouer dehors. Le beau grand vent se fait sentir. J'ai le goût de répandre plein de beaux sourires. Monsieur Nuage se présente pas. Pas fou de chicane. Moi j'aime mieux pas.
L'actualité socio-culturelle et politique vous intéresse.
Alors prenez rendez-vous avec l'émission Montréal sans accent le mardi de 16h à 17h30 sur 102,3 FM Radio Centre-Ville.
Un beau choix musical fait aussi partie de cette émission.
L'émission Reggae Dom, c'est le mercredi de 14h à 15h sur Radio Centre-Ville, le 102,3 FM. Le meilleur de l'actualité sur le reggae francophone et créolophone. Venez vous délecter de la meilleure musique sur les ondes de la Radio du Soleil. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Stéphane Pagliaro qui vous parle. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis de 15h à 16h pour les Tremplins Nouvelle Vague. Entendre de nouveaux artistes, d'incontournables chansons, de musique de film, d'inoubliables sketchs et de patchwork inédits. Les Tremplins Nouvelle Vague, votre émission sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM, la radio multilingue de Montréal.
Salsa, reggae, kamba, Radio, Lambada, Bossa Nova, Fado, Hip Hop, Hagamofi, Mala, Hango, Samba, Merengue, Bachata, Jazz, Chansonnette Française, Soukous, Honk Francophone, Funk, Blues, Techno, Drum and Bass. Toute la musique du monde sur le 52,3 FM. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde Montréal.
Donc voilà, rebonjour chers auditeurs, chères auditrices. Vous êtes toujours sur les rangs de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Donc dans la deuxième partie de son témoignage, vous allez continuer de voir l'étonnement de la victime, Madame Diane Guérard, qui cherche par tous les moyens de comprendre pourquoi son frère d'abord était arrêté, qu'est-ce qu'il a fait de contrevenant alors qu'il était tous les deux à l'extérieur, visible, en train d'attendre l'arrivée des policiers. N'oubliez pas aussi que dans cette attente, le frère en question communique en direct avec le responsable de cette intervention policière. Vous allez voir aussi l'attitude de l'agent et Pureau, se matricule 3471, l'agresseur dans ce dossier, et l'attitude aussi de ses collègues devant une telle intervention policière. Toujours malheureusement, c'est la gratuité de la panique de certains policiers qui fait beaucoup de tort. Cette panique inappropriée a déjà fait trop de victimes sur l'île de Montréal et ailleurs dans la province. Je vous laisse écouter aussi la seconde partie du témoignage de Madame Diane Guérard qui ne souhaite rien après le mal que d'éviter à d'autres victimes le sort. S'en sera elle-même. Écoutez le témoignage de Madame Guérard, Diane Guérard.
Voilà donc, rebonjour Madame Guérard, on va juste reprendre un petit peu ce que vous nous disiez dans la première partie. Moi ce que j'aimerais bien savoir, avant cette histoire de la vitre qui tombe sur vous, pouvez-vous me dire dans quelle position vous étiez quand le policier était sur votre frère?
J'étais en avant de lui, en avant sur le côté de lui,
oui.
Puis là... Je lui demandais, c'est quoi que t'es, pourquoi t'arrêtes mon frère? Là, il m'a regardé, ça a duré peut-être un gros 2 minutes. Puis là, il m'a donné une poussée, il avait les yeux tellement mauvais. Il m'a donné une poussée sur mon sein, puis là, j'ai été revolée dans la vitre. Puis là, la vitre a brisé, là, j'ai levé ma tête pour regarder en haut. Puis là, le morceau de vitre, qui était immense, il a décollé d'en haut. Puis là... J'ai eu peur que ça me tombe dans le visage ou dans le cou. J'ai avancé, mais pas assez vite. Puis là, il a tombé sur mon dos, où est-ce qu'il y a mon épaule.
Il s'est piqué complètement dans votre dos, madame.
Exactement. Ça m'a ouvert de 22 cm.
On parle de 25...
25 points de suture,
oui,
que j'ai eu. Puis là, le sang a jailli. Je l'ai vu là par mon épaule, le sang a jailli. Là, j'ai reculé, puis je me suis tendue sur le mur. Puis là, les deux genoux m'ont plié, j'ai tombé à genoux. Là, je criais, aidez-moi, aidez-moi. Puis là, la policière est venue, puis elle a mis sa main sur mon épaule pour empêcher le sang de jaillir. Puis là, je continue à demander pourquoi qu'il m'arrête, pourquoi qu'il arrête mon frère, qu'est-ce qu'il a fait?
Oui, Madame Guérard, excusez-moi, avant d'arriver à cette, malheureusement, cette blessure avec la vitre, je peux savoir, est-ce que le policier en question qui était sur votre frère, à côté de lui, est-ce qu'il y avait des policiers autour de lui?
Autour de lui, non, il était juste sur le côté de moi quand que le policier me poussait.
Mais excusez-moi, le policier qui vous a poussé, on oublie ça.
Oui.
Les autres policiers qui étaient à côté, il y a combien de policiers qui étaient à côté?
Trois policiers, il y avait trois policiers à côté de moi.
Il y avait trois policiers qui étaient juste à côté de vous.
Oui.
Et madame, il n'y a en aucun moment un de ces policiers-là et vous a demandé de reculer.
Aucun n'est intervenu parce que j'étais pas agressive. Je demandais seulement le pourquoi qui arrêtait mon frère.
Il y avait trois policiers à côté de vous.
Trois.
Il n'y a aucun moment un policier qui vous a pris par le bras et vous a fait reculer.
Aucun.
À votre avis, pourquoi ils l'ont pas fait?
Parce que j'étais pas agressive.
Oui, parce que vous insistez. Vous demandez...
Je demandais seulement pourquoi qu'il l'arrêtait, mon frère.
C'est ça. Vous l'avez, j'imagine, vous l'avez posé cette question-là une fois, deux fois.
Oh, plusieurs fois.
Et c'est pour cela, le policier qui maîtrisait votre frère, il est tourné vers vous,
oui,
et il vous donne un coup en vous poussant vers la vitre, c'est ça?
C'est ça, oui.
Violemment.
Oui, violemment. J'avais un bleu sur un sein.
Oui, mais puis... vous avez un dos qui est ouvert aussi.
Oui, j'ai mon dos qui est
ouvert. Ouais. Mais revenons un petit peu. Moi, ce qui me dérange, cette histoire-là, les policiers, il n'y a aucun moment qu'il y avait aucun moment un policier qui est intervenu.
Aucun.
J'imagine, parce
aucun.
Que vous n'étiez pas agressif. Il ne voyait pas la nécessité, si je me trompe.
Exact. Il n'y en avait pas de nécessité pour m'arrêter. S'il m'avait dit seulement reculer, madame, j'aurais sûrement reculé. Mais rien s'est dit. Ses yeux étaient tellement méchants. Puis là, il s'était lancé, puis il m'a donné un coup avec sa main droite.
Mais il reste toujours assis sur votre frère?
Oui.
Ouais, il ne bougeait pas encore?
Non,
mais
du tout.
Ça veut dire, les policiers, est-ce qu'il y avait une possibilité qu'un de ces policiers l'a pu prendre par un bras,
oui. Oui, il était dans la porte.
À l'extrémité.
Juste à côté de moi, il n'était même pas à 5 pieds de moi.
Donc, ils n'ont pas fait rien du tout?
Rien du tout.
Mais par contre, le policier qui vous a donné un coup... Et vous êtes volé dans les vitres, ça c'était exact.
Oui.
Roland.
Il y a quelque chose que ces policiers étaient inactifs.
Inactifs, ben les autres là.
Il y en avait un qui était actif,
exact.
Violemment.
Exact.
Les trois autres regardaient la scène.
Exactement, oui.
C'est parfait. Oui, merci Roland. Je vais revenir, madame, avec madame Guérard, avec vous maintenant, à propos de, une fois la vitre est tombée sur vous, elle vous a ouvert le dos et tout, il y avait une de ces policières, elle est intervenue et elle a mis sa main sur la blessure.
Sur ma plaie,
pour arrêter
le sang de jaillir, oui.
Parce qu'il y avait trop de sang, j'imagine.
Oui, j'ai un muscle de coupé, j'ai des artères de coupé.
Vous allez nous parler un petit peu après pour les conséquences de la blessure.
Oui.
J'aimerais bien. Donc j'imagine que les policiers en question, ils ont appelé 911, ils ont appelé l'ambulance.
Oui, la policière, quand elle a mis sa main, elle m'a dit, attends, ça sera pas long, l'ambulance s'en vient.
OK, voilà.
Là, l'ambulance est arrivée, puis eux, ils ont changé de place, puis ils m'ont emmené sur la civière qui était à l'extérieur parce qu'il me disait qu'il faisait froid puis qu'il voulait m'abrier,
oui,
vu que j'étais seulement en chandail.
Et votre frère était où?
Il était là, couché au sol, puis là, il était menotté, puis il était en train de le lever. Puis là, quand l'ambulancier m'a emmené dans l'ambulance, j'ai dit, je veux pas vous partir tant et aussi longtemps que je saurais pas où ce qui emmène mon frère. Je veux savoir, puis pourquoi il l'arrête, puis pourquoi il l'amène. Puis là, bon, ça a pris peut-être 10-15 minutes comme faut.
Oui.
Là, la policière est venue, puis là, elle m'a dit, on emmène ton frère à la même hôpital que toi, faut qu'il soit évalué. J'ai dit, c'est beau, là, les ambulanciers, on est parti pour s'en aller
à l'hôpital.
Oui. Puis là, rendu à l'hôpital, j'étais sur une civière. Puis là, ben, j'attendais pour que le médecin vienne me faire des points dans mon dos.
OK. Est-ce qu'il y avait un policier qui vous a accompagné?
Du tout.
Mais sur le lieu, à l'hôpital, il y avait un policier?
Non plus.
Quel hôpital c'était?
C'était à l'hôpital de la Chine.
Oui. Mais,
Saint-Joseph de la Chine.
Oui. Oui.
Donc, quand vous étiez à l'hôpital, il n'y avait pas un policier?
Non, il n'y avait pas de policier avec moi, du tout.
OK. Mais le policier qui vous a poussé, il n'était pas à l'hôpital non plus?
Non.
OK. Maintenant, vous avez, j'imagine, rencontré votre frère à l'hôpital?
Oui, là, mon frère est venu...
Vous voir?
Oui, me voir, il est rentré, puis là, il m'a demandé si j'étais correct.
Ouais.
Puis là, j'ai pleuré beaucoup, puis là, il s'est emmené en avant de moi, il m'a fait une caresse, puis lui aussi, il pleurait, puis il dit, Diane, ça sera pas long, ils vont t'arranger. J'ai dit, oui, mais je comprends pas pourquoi que le policier me poussait, je comprends pas. Je dis, ça me rentre pas dans la tête. Là, à ce moment-là, quand j'ai dit ça, le policier qui me poussait était là, mais je le voyais pas parce que j'étais couché sur le dos.
Oui,
sur le côté.
C'est le même policier qui vous a poussé?
Le policier qui m'a poussé s'est emmené à ma tête.
Est-ce que vous l'avez reposé la question, pourquoi vous m'avez
poussé? Non, du tout. Fait que là, lui, il me dit, Diane, il dit, fais-toi-en pas. Il dit, demain, m'a tout expliqué.
Qui vous a dit ça?
Le policier.
Le policier qui vous a poussé?
Oui.
Il vous a dit, demain, je vous explique tout ça.
Je vais tout expliquer ça demain.
Parfait. Maintenant...
Là, je l'ai regardé, puis là, je pleurais, puis je comprenais pas, vraiment pas, même après qu'il me dit ça, pourquoi qu'il me disait mais, ça, là.
Diane, votre frère qui était devant vous, parce qu'il avait des menottes, il s'est menotté cette fois-là?
Là, il n'était pas menotté du tout.
Mais quoi? Ils l'ont lâché ou quoi?
Je ne sais pas, non. Il s'en allait dans l'autre salle parce qu'il voulait le faire évaluer par un médecin.
Oui.
Puis là, il a passé avant moi. Le médecin est resté. Je l'entendais dans ma salle à moi parce qu'on était dans les salles côte à côte.
Oui, oui.
Puis là, le médecin lui a demandé... Il l'a regardé, il a posé une couple de questions. Puis là, après ça, il a regardé le policier, il a dit au policier, il dit, croyez-vous, il dit que monsieur Guérard, il dit, a l'air d'un homme agressif. Puis le policier lui-même répond, non, il est pas agressif. Il dit, quelle évaluation vous voulez que je donne à un homme qui est pas agressif?
OK. Et puis, ils l'ont relâché.
Oui.
Il n'y avait aucune charge contre lui.
Aucune charge.
Et au moment, vous avez dit qu'il avait menotté.
Oui.
Donc, ils estimaient qu'il était dangereux, qu'il fallait le menotter.
Exact, j'imagine.
Et lorsqu'ils ont enlevé ces attaches qu'il avait, ces attaches de plastique ou menottes ou autre,
oui.
Est-ce que vous avez assisté à ça?
Non, du tout.
Du tout.
OK, non. OK.
Là, mon frère, en tout cas, après l'évaluation, il a été relâché. Il s'est envenu me rejoindre dans la salle où j'étais pour les points.
Oui.
Puis là, je lui ai demandé, j'ai dit... Pourquoi qu'ils t'ont arrêté? Pourquoi? Puis là, il m'a expliqué que c'était son ancienne blonde qui avait appelé la police pour dire qu'il voulait se suicider, puis que si quelqu'un intervenait, qu'il était pour tirer sur eux.
Ouais. Ah, j'imagine que c'est ça peut-être qui a fait paniquer les policiers?
Probablement, je ne sais pas, mais c'est pas plus une raison pour venir comme ça puis me pousser moi.
Ouais.
De toute façon...
De toute façon, il vous a poussé au moment que votre frère était... menotté sur le sol.
Oui.
Donc, il n'y avait aucun danger.
Aucun danger.
Oui, oui.
Puis là, il m'a expliqué, mon frère, que 5 minutes après, j'étais encore là dans l'ambulance.
Oui.
Ils l'ont emmené où ce que c'est qu'il y a les escaliers. Puis, ils l'ont fait asseoir. Puis, 2 minutes après, ils ont enlevé les menottes. C'est là j'ai dit, ben pourquoi ils t'ont mis les menottes d'abord?
Oui.
Je comprenais encore moins.
Oui.
La raison de la violence qui s'est produite.
Je comprends, Madame Guérard. Peut-être, je ne sais pas, mais à la rigueur, que l'ex-blonde, son ex, puisqu'elle a dit au policier comme quoi il était agressif, et puis qui pouvait soi-disant tirer sur un policier.
Ouais, ça, c'est bien dit.
Mais au moment qu'il était menotté par terre, je ne vois pas pourquoi le policier en question qui vous a poussé de cette manière-là, est-ce qu'il paniquait, à votre avis? Ou est-ce que c'était une prise de panique ou de l'argent?
Je ne sais pas. Pour moi, je l'ai appelé le héros. Manqué.
Le héros.
Oui. Maintenant, je veux savoir, maintenant, après l'évaluation, c'est-à-dire après, quelles sont les conséquences de la blessure que vous avez eue, madame?
Ben, j'étais... ça faisait mal, très mal. J'ai été 4 jours sans dormir. Je pouvais pas, j'avais pas de position pour dormir, c'est dans le dos.
Vous m'avez parlé un petit peu des muscles aussi que vous avez.
Oui, j'ai des muscles déchirés qui affectent mon bras.
Oui.
Parce que je pouvais pas étirer mon bras.
Oui.
À 100%.
Oui.
Mon métier, c'est serveuse, ça fait que j'ai besoin de mes bras pour travailler.
Oui.
Puis. C'est le tout, là. Je suis marquée à vie, là, dans le dos. Je peux plus porter de vêtements sans dos, rien. Je sais pas, là. Mais je me sens tellement, mais diminuée, là, à travers tout ça.
Oui, Madame Guérard, excuse-moi, mais je sais que depuis presque un mois, l'incident est passé. Et vous avez toujours cette douleur, vous portez toujours cette douleur.
Oui, parce que là, c'est tout infecté. J'ai des points intérieurs que je ne sais pas, c'est supposé fondre.
Oui, mais à part la douleur physique, je la constate aussi. Je vois aussi votre bras, vous n'arrivez pas à fonctionner, l'articuler comme il faut.
Oui.
Mais cette douleur psychique aussi que vous avez aussi, est-ce que vous...
Ça, je pense, ça partira jamais. À chaque fois, je m'en parle, ça revient comme si c'était hier.
Avis de justice aussi.
Et madame aussi, votre frère, est-ce qu'il porte les mêmes, la même douleur que vous?
Oh oui, mon frère, depuis que c'est arrivé, il est chez moi, il dort ici chez moi, il n'est pas capable d'aller chez lui. Quand il va chez lui chercher soit des vêtements ou des choses qu'il a besoin, il revient, puis il y en a pour 2-3 jours qu'il ne parle plus.
Il est vraiment
traumatisé de tout ça.
Mais madame, maintenant, je vois, je ne sais pas si vous me permettez de poser la question, quel est le sentiment que vous portez aujourd'hui, après cet incident-là?
Moi, parce le que sentiment je sais, moi, vous l'avez dit, envers les policiers?
Oui.
Oh non, non, c'est plus le même. Créez-moi là-dessus. Okay. Mais que je vois un policier, je vous jure qu'en quelque part, je vais être rendu assez loin qu'ils ne pourront même pas m'identifier de la couleur de mes yeux.
Vous avez peur des policiers?
Ces policiers, oui, les policiers aujourd'hui, c'est plus ce que c'était avant.
Et pourtant, vous avez appelé, madame, pour avoir de l'aide pour votre frère. C'est non. C'est-à-dire que, normalement, votre frère, je ne sais pas si... Vous n'avez pas appelé, non?
Non, je n'ai pas appelé du tout les policiers.
Maintenant, je ne sais pas, madame, est-ce que vous avez quelque chose à dire maintenant? Avez-vous un message à passer aujourd'hui? Pourquoi? Vous m'avez dit, quelles sont les démarches que vous avez faites jusqu'à présent?
Les démarches que j'ai faites, j'ai été chez Cavac parce que je ne savais vraiment pas où aller. C'est ma nièce qui m'a suggéré d'appeler Cavac, qu'eux autres m'aideraient à me diriger.
Est-ce que les Cavac, ils vous ont...
Cavac, quand je les ai rencontrés, ils m'ont dirigé vers IVAC.
Oui.
Après, ils m'ont parlé de Mouvement Action Justice, puis ils m'ont dit que vous autres, vous étiez pour m'aider.
Oui.
Pour en arriver à arrêter la violence policière, c'est débile. Je comprends pas pourquoi des policiers qui sont censés aider les citoyens...
Protéger les citoyens. Ils nous menacent.
C'est comme si on appelait les pompiers, puis que les pompiers viennent de mettre...
C'est aussi pire que si j'avais appelé un bandit. Si j'avais appelé un bandit, je pense qu'il aurait été plus fin que ça. Excusez.
Non, c'est de confiance en ces
gens-là. Peut-être, si vous n'avez pas quelque chose à dire, comme un dernier, quel est le message que vous avez envie de dire aujourd'hui? Et pourquoi vous avez insisté à témoigner publiquement comme ça?
Pour que les gens comprennent qu'en quelque part, il y a de la violence policière.
Oui.
Puis qu'en quelque part, il faut que ça arrête. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter cette violence-là, parce que c'est plus seulement les gens ou les citoyens qui sont violents, c'est vraiment les policiers qui deviennent violents sans même analyser la situation.
Oui.
Est-ce que vous ne pensez pas qu'il devrait avoir un casier judiciaire de ces policiers qui agissent avec brutalité?
Oui, parce que moi, ce que j'ai dit à mon frère, la seule chose qui lui aidait, lui, c'est son habit de policier. Point à la ligne. Sinon, ça aurait été un citoyen, il serait en dedans.
Voilà, donc, Mme Guérard, je vous remercie pour votre témoignage et je vous souhaite une bonne chance.
Merci.
Mais, madame, il y a une question que je voudrais vous poser. Est-ce que vous avez perdu du salaire, des revenus et autres depuis ce temps-là? Est-ce que vous êtes vraiment handicapé financièrement aussi à cause de cette situation?
J'ai perdu une semaine de salaire. Il y a mes comptes qui rentrent normalement. Il y en a un qui a rebondi. Bon, j'ai des problèmes que j'ai réglés.
Non, mais plus grave que ça, c'est parce que votre main, vous ne pouvez pas jouer, vous ne pouvez pas fonctionner avec votre main. Et c'est la main droite qui fait mal, c'est ça?
Exactement, oui.
Vous risquez de perdre votre emploi même, parce qu'à un certain moment, c'est handicap...
Oui, parce qu'ils m'ont mis à l'épreuve quand je suis retournée travailler, parce qu'ils m'ont dit qu'une blessure comme ça pouvait pas... Ça pouvait pas durer rien qu'une semaine de convalescence. Pour eux, c'était beaucoup plus. Puis les deux premières journées, j'ai été mise à l'épreuve à mon travail. Puis sans qu'elle me le dise, ma patronne, je le voyais qu'elle me mettait à l'épreuve.
C'était, madame, c'était produit l'incident été le 6 février.
Le 6 février 2012.
À quelle heure?
Dans les alentours de 1h30, 2h moins quart.
Et ça a été à quel point, à quelle place?
À la Chine.
À la Chine. Je te remercie beaucoup, madame Diane.
Merci.
Au revoir.
Voilà donc, chères auditrices, chers auditeurs, c'était le témoignage de Madame Diane Guérard, victime de la brutalité policière. L'incident s'est produit, comme on l'avait entendu, le 6 février 2012 à la Chine. Donc c'est tout à fait tragique, bien sûr, mais c'est une réalité malheureusement courante ici à Montréal et sur la province du Québec. La gratuité de la brutalité de l'autorité et du non-respect sont toujours malheureusement aussi présent. Vous savez aussi, vous avez entendu aussi que l'agent Pirot, matricule 3471 de la SPVM, devant le drame, avait promis de revoir Madame Guérard, la victime, dans ce dossier-là. Et il lui a, pour lui expliquer justement pourquoi il avait agi de cette manière-là. L'agent Pirot, matricule 3471 de la SPVM, n'a jamais donné signe après l'incident. Et suite à ça, j'aimerais bien discuter avec mon collègue Roland Cazès à propos de cet incident malheureux aussi, qui n'est pas le premier, qui ne sera pas le dernier. Qu'est-ce que vous m'avez accompagné, Roland, vous l'avez entendu à voix vive. Qu'est-ce que vous disiez
Moi,
de ça?
Moi, je vais poser une question aux gens qui écoutent, qui sont à l'écoute. En votre âme et conscience, si c'était votre sœur, votre mère, comment est-ce que vous auriez confiance à la police après?
Comment réagissez-vous
aussi? Comment vous allez réagir si c'est un membre de votre famille que vous connaissez, qui est doux, qui est tendre, qui est gentil, qui est familial, qui est bien, et du jour au lendemain, elle est pénalisée pour avoir été bonne?
Mais ce que j'aimerais bien, Roland, parce que c'est inquiétant aussi, vous savez que le frère qui faisait l'objet de l'intervention, il était en direct avec le sergent qui contrôlait vraisemblablement l'intervention policière.
Oui,
il était au courant, donc il était en contact au téléphone, donc il expliquait justement leur position et tout. Pourquoi est-il une explication justement à cette intervention-là?
Moi, je n'arrive pas à comprendre qu'on va voir consulter quelqu'un et qu'on arrive avec des fusils, mitraillettes, fusils, guns dans les mains. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, si on me voit avec un pot de chambre, ça veut dire que je vais pisser dedans. Oui. Si quelqu'un a une arme à la main, ça veut dire qu'il va s'en servir, il va tirer.
Oui. Vous avez aussi remarqué aussi, ou plutôt vous avez entendu aussi dans le témoignage de Mme Diane Guirard, comme quoi elle-même, elle est arrivée devant son frère pour le protéger. Et c'est une perte, c'est une crainte. La population québécoise aujourd'hui, ils savent que les policiers tirent à tout moment sur des individus.
Trop vite.
Hein.
On les a considérés à look-y-look, qui tirent plus vite que leur ombre.
Mais Roland, est-ce que c'est une inquiétude qui est maintenant généralisée dans la population?
J'étais soldat, j'étais militaire, j'ai fait le Djebel, on appelle ça le maintien de l'ordre en Algérie et autres. Oui. Nous avions les chargeurs cousus à la ceinture. Oui. Et nous devions tirer sur une corde, détacher le chargeur, mettre le chargeur dans notre arme, faire les sommations et tirer en l'air avant d'agresser quelqu'un.
Oui.
Comment ça se fait que nos policiers ont le gun trop vite, chargé, préchargé, peut-être même pas avec la sécurité dessus? Moi, je ne comprends pas. Qui forme ces policiers? Est-ce qu'ils sont mal formés? Est-ce qu'on leur a donné l'ordre de tirer, ceux qui les entraînent? Est-ce qu'on leur dit tirer d'abord et discuter après? Oui, mais... Est-ce que c'est cette façon de faire des policiers? Moi, je trouve que c'est honteux. Dans un pays civilisé comme le nôtre, je trouve que c'est honteux. Il y a une malformation et il y a des gens qui subissent. Regardez cette pauvre femme. Ça m'arrache le cœur, moi.
Oui, mais Roland, est-ce qu'il y avait-il réellement... Moi, je pense que oui. Pour vous, est-ce qu'il y avait-il réellement un risque que si la sœur n'était pas venue arriver devant le frère, est-ce qu'il y avait un risque que les policiers tiraient sur le frère?
Voilà, c'est ce qui se pose. Parce que la question.
Oui,
ils étaient dans cette situation-là. Ils voient des gens armés, le gun à la main, mais ça va venir pour tirer. Alors elle s'est mise devant son frère, elle a voulu protéger son frère. Elle a un esprit familial, cette femme. Oui. Et je la félicite et je trouve que c'est une très gentille dame.
Mais c'est pas juste l'esprit familial, c'est la crainte.
La crainte. Fait
attention.
Elle a protégé son frère, elle a un esprit protecteur. Écoutez, c'est tout à fait normal. Il n'a rien fait de mal. Elle le sait qu'il est saint, pur et net et qu'il a juste pleuré parce qu'il s'est séparé. Ça arrive tous les jours. Est-ce que tous les jours, on doit envoyer des policiers pour tirer le monde ou bien pour menacer le monde ou bien les abîmer, les détruire contre une vitre ou autre à cause qu'ils viennent de casser avec leur blonde?
Oui, aussi, on peut pas juste blâmer, parce que dans ce dossier-là, j'ai pas juste l'agent Pirot, matricule 3471, qui est blâmé dans le dossier, mais il faut pas oublier que ils sont aussi blâmés, les trois policiers qui étaient à côté de madame et qu'ils n'ont pas réagi.
Ils regardent le show.
C'est ça.
À quoi ça sert, ces trois policiers qui regardent?
Non, mais...
S'il y en a un qui fait toute la job et puis qui massacre tout le monde.
Parce qu'il faut attention, parce que ça
nous montre... On a des fous.
Ça nous montre, Roland, deux genres de policiers. Les trois policiers ne voient pas la nécessité d'intervenir parce que madame, elle demandait simplement pourquoi son frère, il était arrêté.
On est déjà intelligents, il faut nous expliquer.
Alors, nous sommes aussi devant un autre image d'un autre policier que...
tellement pris de panique, je ne sais pas, penser que quel genre de menace pour moi, retourner et pousser violemment la dame pour
il y a autre chose qui est choquant. Ouais. On fait passer un test au monsieur qu'on a arrêté, le frère de madame.
Ouais, ça, c'est
le policier, est-ce qu'on a fait une évaluation de ce policier-là?
Vous pensez que c'était le policier qu'il fallait...
Ce policier n'est pas normal.
Ouais.
Il se prend pour Dieu le Père.
Ouais.
Il n'est pas normal, ce gars. Il faut le passer devant un psychiatre immédiatement. On devrait avoir des casiers judiciaires des policiers et marquer leurs défauts dedans, leur façon d'agir. Et au bout de quelques temps, si le dossier est plein, on les fout dehors.
Mais vous savez aussi que Roland, si vous me permettez, que même le policier qui a accompagné, d'une manière ou d'une autre, accompagné la victime pour voir la gravité de la blessure et tout, et finalement... devant l'incompréhensible, et il paniquait aussi davantage. Il disait à la dame, à la victime, comme quoi rassurez-vous là madame, je vais vous revoir demain et je vous expliquerai tout ça. Wow. Et au fond il n'a jamais donné signe, il n'a jamais revenu sur le lieu. Aucun policier qui est revenu voir cette dame là ou l'a rencontré pour faire des excuses ou pour expliquer cette intervention.
N'oubliez pas une chose, que chaque fois qu'un policier fait une gaffe, il contacte sa fraternité. Et la fraternité lui donne des conseils.
Oui.
Ne vous présentez pas devant un juge pour une accusation. Ne vous représentez pas devant la victime. Ne faites pas de gaffe. Fermez votre gueule. Laissez-nous agir. Et ça, c'est la complicité de crime des fois, oui, de meurtre des fois et d'agression. Et c'est la fraternité policière. Je ne comprends pas qu'il y ait un syndicat policier. Moi, je ne comprends pas
ça. Tu es en train de dire que, c'est-à-dire que les policiers se sont tellement protégés qu'ils agissent de cette manière-là, d'une manière ou d'une autre. Oui, c'est ça.
Eh oui, ils agissent d'une façon inhumaine.
Oui.
Et puis après ça, le syndicat leur dit, attention, vous avez fait une gaffe là, ne vous représentez pas, faites-vous oublier, si le juge vous convoque pour une cause en cours, ne vous présentez surtout pas. Et les dossiers traînent au palais de justice, les policiers ne vont pas à cause que la fraternité leur conseille d'être croche.
Oui, mais dans ce cas-là, revenez toujours dans le cas qu'on a aujourd'hui, dans le cas de l'agent Pirot, matricule 3471, j'espère que je ne me trompe pas de matricule, c'est important de citer comme quoi c'était peut-être il corrigera pas le tir, mais revenir et rencontrer madame la victime, peut-être ça a pu faire un petit peu montrer le regret le coup. Tu comprends,
à ce moment-là, si c'est l'impulsion qui mène,
oui,
où va-t-on atterrir avec ces policiers là les policiers ne doivent pas être sous une impulsion.
Oui.
Les policiers doivent réfléchir avant d'agir. C'est vrai que de temps en temps, on voit des policiers qui vendent même des renseignements sur l'enquête de la mafia et tout ce qui s'ensuit. Mais ils doivent réfléchir avant d'agir.
Oui.
Ils ont eu une carrière, ils veulent une carrière. Est-ce qu'on va avoir une carrière avec ce policier-là? Oui. Est-ce qu'il va faire d'autres victimes encore?
Mais Roland, c'est ça le problème. Ça veut dire que nous, quasiment chaque semaine, on a un individu.
C'est
chaque
grave.
Semaine, on a une victime. Et les appels continuent. Oh. Malheureusement, le téléphone est sans toujours.
Ils sont provocateurs. La preuve, les étudiants qui ont manifesté sans police, ça s'est bien comporté comme du monde.
Oui.
Tandis que, vous voyez, quand ils sont là, ils provoquent. Ils font de la provocation, ils se pensent des héros, je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête, ou ils sont malades.
Donc voilà, excuse-moi Roland, nous arrivons malheureusement au terme de notre émission. Je souhaite remercier Madame Diane Guérard, résidente de la salle, pour son témoignage et sa participation. Je remercie également mon collègue Roland Cazès pour sa fidélité à l'émission. Un grand merci à Madame Suzanne Chartrand, c'est ça Madame Chartrand? Madame Charland, pour la technique du son et son grand appui. Merci à Radio Centre-Ville, 102.3 FM, de nous avoir cédé cet espace afin que la parole de l'autre existe. À vous, chères auditrices, chers auditeurs, merci d'avoir été à l'écoute. À moi, je vous donnerai rendez-vous vendredi prochain à la même heure. Au revoir.
Mais pas...
Constable Maquet, on va vous recycler.
Oui, chef Saulnier.
Vous allez voir que ça ne sera pas compliqué. Dans la police, on en...
Non-stop sur les Antilles. Une émission de variété. Un plaisir à la découverte. Une émission à savourer sans modération.
Musique, information, éducation, histoire, débat.
Non-stop sur les Antilles.
Mardi, 12h30. Sur Radio Centre-Ville, 102,3 FM.
C'est un rendez-vous.
ici Sam Proof et
Pascal.
Entre un café et le trafic, Urban Ways, une façon de débuter le week-end.
Tous les vendredis matin, de 8 à 9, où l'on parle actualité, culture, musique dans un vibe chill.
Et recevez les conseils de nos différents chroniqueurs. Alors stationnez-vous.
Fermez la porte du bureau.
Urban Ways, tous les vendredis matin, 8 à 9.
Si vous avez collé l'étiquette de don d'organes sur votre carte d'assurance maladie, merci. Mais savez-vous qu'à votre décès, c'est votre famille qui décide. C'est pour ça qu'il faut en discuter avec vos proches. Donc, si vous nous écoutez en ce moment en compagnie d'un membre de votre famille, dites-lui, je veux donner mes organes. On va attendre un instant pendant que vous le faites. Bon, c'est fait. La Fondation canadienne du Rhin vous en remercie.
Salsa, reggae, kamba, zouk, lambada, bossa nova, fado, hip-hop, hagamofi, mala, hango, samba, merengue, bachata, jazz, chansonnette française, soukous, rock francophone, funk, blues, techno, drum and bass. La musique du monde sur le 52,3 FM. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde Montréal.